When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. Bonjour le King, comment ça va en ce mardi 23 mai?
Mon cher Guillaume, je vais bien et toi-même?
Ben ça va très bien, ça va très bien. Il s'est passé beaucoup de choses cette dernière semaine et ça va être le gros sujet du King and the G du jour. C'est le PFL. Le PFL a-t-il finalement tout compris? Ils ont signé Cédric Doumbé, ils ont signé Francis Ngannou, surtout on va dire Francis Ngannou à l'international, parce que Doumbé ça nous intéresse en France, ils se lancent en Europe. Est-ce que pour toi qui les connais bien, en tout cas qui a des relations avec eux, est-ce que tu es en train de te dire, c'est une stratégie qui pourrait toi t'intéresser pour Arès? Et avant toute chose, toi, on regarde, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties sur les réseaux sociaux, en train de se dire, là le PFL Europe-Afrique, avec Francis, avec Fernand pour des retrouvailles, ça risque d'être assez assez spicy.
Vas-y, calme-moi, toi. Non, il n'y a pas de souci. Il ne devrait pas avoir de souci. En tout cas, ils ont tout compris. Ils sont sur la bonne voie. Ils font exactement ce qu'il faut. Si j'avais levé 300 millions, c'est exactement ce que je ferais. L'OMMA, le modèle business du MMA, ne marche qu'en cramant des sous. On ne peut pas accélérer le processus du MMA si on ne brûle pas du cash. Maintenant, il faut savoir le brûler de manière raisonnable pour que ça dure. Et chacun à son échelle, chacun à son niveau. Mais avec le montant qu'ils ont encaissé, qu'ils ont levé comme fonds, leur fonds d'investissement qui est bien connu, qui est solide, Arès, c'est le nom, c'est fou, hein. Le nom de leur fonds d'investissement, ça est Arès. Et ils ont les moyens de faire ce qu'ils font là actuellement pendant quelques années, pendant deux décennies. Ils ont de quoi faire et dépenser quelques temps, et c'est important. Parce que du coup, ils pourront rattraper tout le retard qu'ils ont. Concrètement, le seul moyen aujourd'hui d'attirer l'attention et de faire qu'on parle de comment on vient de faire là, c'est que là, je pense que depuis la création du King and the G, c'est la première fois où on se pose et on parle du PFL. C'est juste parce qu'ils font ce qu'il faut. Ils font des OPA un peu partout dans le monde. Et il n'y a que des bonnes nouvelles qui arrivent. Ils sont ultra agressifs tout le temps. Mais ils n'ont pas de limite. Ce n'est pas un secret. Je les ai reçus trois fois à Paname. Et à chaque fois, on a des discussions très possibles, très progressives et très agressives sur le territoire français, sur l'Afrique et le territoire français. Très concrètement, c'est pour ça qu'on se voit, c'est pour ça qu'on se croise, c'est pour ça qu'on échange, parce qu'il y a cette volonté-là de s'implanter durement sur le territoire. Comme la plupart des organisations qui veulent sortir de la tête de l'eau le font. Le Bref a essayé de le faire en plantant les drapeaux un peu partout, mais c'est différent, c'est un arrangement où il n'y a pas tellement d'argent injecté, c'est une coproduction qui se passe avec le Bref, et c'est ce qui va se passer bientôt quelque part en France avec le Bref. Ils s'associent à une petite organisation, ils gèrent un petit truc et puis ils font. Là, c'est pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils arrivent avec des gros moyens Et ils disent, bon, nous, concrètement, voilà ce qu'on veut, quoi. On veut que là, sur la France, tu nous gères ceci, tu nous gères cela, on a les moyens, on veut t'embaucher, on va faire ceci. C'est concret, c'est du cash. C'est très agressif. Et quand tu as les moyens, comme ils ont les moyens, ça a un sens. C'est très bien pour l'Afrique, c'est très bien. Alors, attention aux effets d'annonce. Il y a beaucoup d'annonces qui ne sont pas sur le terrain. Ça ne va pas se traduire comme ça rapidement. C'est que Dana White qui essaie de minimiser l'impact de ce que fait le PFL dans son discours, non, il joue le poker face. Il est mort en guerre. C'est très clairement là, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un, un promoteur sportif, qui peut sérieusement mettre en danger l'UFC. Sérieusement, c'est que concrètement, à partir du moment où tu commences à payer les gens et que tu dis le fil conducteur de tous les athlètes, c'est l'argent, où va l'argent, comment ça se passe? Tu annonces aux gens, celui qui combattra Francis Ngannou pourra gagner à l'aise 2 millions. À partir de là, tu auras une hémorragie très certaines, ça va aller lentement, mais il y aura certainement une hémorragie de tous les autres gros structures. C'est le cas. En gros, aujourd'hui, un mec qui n'est pas très bankable et qui n'est pas très visible par le matchmaking de l'UFC et qui n'est pas géré par Hunter, donc qui est en dessous, quand tu es géré par Hunter, tu sais tu es déjà dans la bonne sphère où tu es payé bien. Quand tu es en dessous et qu'on te paye 400 000, 600 000 par combat, ce qui se passe, c'est que tu vas juste te dire, OK, je serre la ceinture, je laisse couler mes quatre combats, je sors de là, je vais tenter ma chance. Si je combats contre Francis, même si je perds le combat et que je prends 2 millions et que je suis en CEF, voilà comment petit à petit tu vas créer une hémorragie quelque part. Si tu es capable de payer ça pendant 3, 4, 5 combats, le temps que ESPN revoit la copie de leurs droits télévision, c'est parti. Tu l'as en fait. Aujourd'hui, la course du PFL, c'est de se dire comment je fais pour tenir et continuer à mettre des beaux combats jusqu'à ce que le prochain contrat télévisé arrive et que je puisse dire, bon, les gars, vu le show que je vous ai envoyé, on va tripler, on va faire x10 sur les droits de télévision. Et à partir de là, échec et mat. Si tu as les droits de télévision, même le pay-per-view qui est quasiment il a raison, Dana White, quand il dit le pay-per-view du PFL est inexistant. Le pay-per-view de Bellator est inexistant. C'est vrai, mais la réalité, c'est que c'était la situation de l'UFC il y a encore 15 ans. Il y a 12 ans même, l'UFC, le pay-per-view était quasiment inexistant jusqu'à ce que Spike TV fasse le move, jusqu'à ce que derrière ça, il y a pas mal de télévisions qui s'alignent et qu'on arrive aujourd'hui sur ESPN qui est capable de débloquer 1,5 milliard. L'idée, c'est juste comment tenir encore longtemps. C'est ça. C'est qu'une organisation comme Arès, ce qu'on fait à notre petite échelle, c'est de se dire, les organisations moyennes en Europe qui payent moyennement les athlètes, comme le Cage Warrior, comme l'Octagon, comme on se met au-dessus, légèrement au-dessus, et on maintient la barre pendant longtemps jusqu'à ce qu'on sorte de ce qu'on avait comme droit télévision qui était avec RMC et qu'on aille signer un deal un peu plus lucratif avec Canal+. Ensuite, il faut maintenir la barre encore, vendre encore des belles cartes jusqu'à ce qu'on atteigne la prochaine négociation et qu'on puisse rajouter en parallèle quelque chose d'autre sur le deal qu'on a avec Canal, peut-être un autre broadcaster, peut-être un autre deal avec Canal. Enfin, à chaque fois, puisque le deal qu'on a avec Canal dit qu'on est intéressé sur le nombre d'évolutions, enfin, l'évolution des viewers. Plus s'il y a des téléspectateurs, plus on reçoit des royalties dessus. Et donc, on peut renégocier en cours de contrat en fonction de l'accélération qu'on a. Donc aujourd'hui, ils font la bonne chose. S'ils restent à prendre les mêmes combattants qu'ils avaient, le niveau de combattants qu'ils avaient déjà, c'est dire, j'ai Aubin Mercier, j'ai Anthony Dizzy, j'ai un tel. Bon, je me contente de ça. Bon, personne ne les calcule, personne ne regarde ce qu'ils font. Là, ils obligent le monde à se tourner vers eux. Qu'on parle de eux en négatif, que Dana White parle d'eux en critique, la réalité, c'est qu'on parle d'eux, ils occupent l'espace de communication. Tant qu'ils occupent l'espace de communication, on est en train d'avancer très, très fortement et on est en train de talonner l'UFC. Et c'est très bien sur le plan sportif et communication, c'est très bien. Maintenant, la structuration est tout autre chose. Quand tu vas dans un nouveau pays,
Mais pour toi d'ailleurs,
comme
juste, c'est un effet de comme ça, parce que je me souviens, tu te souviens, quand il y avait la World Fight League, qui était la nouvelle ligue de MMA, on a l'impression que le PFL reprend ça, enfin peut-être qu'ils ont investi dedans, ou enfin bref, ça a complètement
non,
disparu, non?
c'était un échec.
Ok.
La WSOSF,
WFL, c'est
c'était.
ça exactement, ouais.
Voilà, WSOSF, c'était l'ancien PFL, et ils ont échoué. Ils sont renés. Il y a eu trois levées de fonds progressives jusqu'à arriver à cette grosse levée qui font qu'aujourd'hui, ils peuvent se permettre d'avoir des OPA et de faire des choses bien et tout. Et puis
Je
voilà.
parlais pas de ça, pardon. Je parlais de la WFL. Tu sais, ils en avaient parlé il y a 2 ans d'une espèce de ligue qui allait arriver où il y allait avoir justement un championnat d'Europe, un championnat par continent, et ensuite il y allait avoir des phases finales. Et j'ai
Ah
là,
oui, ah
voilà.
oui,
Et j'ai
ah oui,
l'impression que le PFL reprend ça. Donc je sais pas s'ils ont investi dedans, mais avec leur PFL Europe, PFL Afrique, j'ai l'impression qu'ils font ça. En gros, ce que je voulais juste dire, c'est est-ce que pour toi là, le fait de dire on fait le PFL Europe, on fait le PFL Afrique, et là j'ai interviewé bah, justement Peter Meurer, le boss du PFL la semaine
oui.
dernière. En gros, il expliquait que leur plan c'était de faire ça aussi dans d'autres continents. Est-ce que tu penses que c'est uniquement des effets d'annonce ou que c'est possible qu'une ligue aujourd'hui puisse être vraiment implantée partout dans le monde?
Ils veulent le faire, mais ça va être difficile. Ils veulent le faire. Mais sur le terrain, ça va être très, très difficile. Ils ont les moyens de le faire. Ça va demander beaucoup d'argent. Il faut être très intelligent. Si je vais au Brésil et je vais implanter Arès et je décide de dire, j'ai les sous, j'embauche. Je prends trois, quatre mecs et tout qui vont m'aider. On a un bureau, un gros bureau. De Arès au Brésil, très rapidement, je vais faire face des fois à des belles surprises où je vais tomber sur un diamant, un mec très bon, très brillant, qui va pouvoir m'aider à gérer le bureau et qui va m'aider sur certains points. Mais la plupart du temps, comme tu le connais, dans l'entrepreneuriat, tu peux réviser tes embauches, tu connais qui tu as embauché et tu peux savoir que quasiment 80% de tes embauches sont des échecs. Ce ne sont pas des personnes qui sont capables de gérer les postes. Tu fais avec, tu gardes certains, parce que bon, c'est un peu vide, mais la plupart des embauches sur des boulots, c'est compliqué. Bah, c'est la même chose. Rappelle-toi qu'il y a quelques années, l'UFC avait un bureau au Canada, un bureau à Londres, un bureau en Asie. Tous les bureaux ont fermé. Ils ont rapatrié tous les bureaux. Aujourd'hui, il y a un seul bureau en Europe, dans toute l'Europe. C'est le bureau de Londres qui se déplace et qui va à Paris, qui va machin et qui va. Parce que former enfin, dupliquer la qualité de travail, c'est quasiment impossible. On allait, par exemple, en 2015, quand on est allé à l'UFC Mexique, à Monterrey, c'était un sketch. C'était un sketch. C'était comme un événement départemental organisé quelque part dans un quartier. C'était ridicule. Et pourtant, il y avait là les sous à mort. Il y avait des secteurs où ils avaient bien fait comme la sécurité. Tu descendais de l'avion, t'arrivais là-bas et tout, et tu étais reçu par des agents secrets qui étaient en civil pour éviter que des personnes avec des passeports étrangers se fassent enlever. On entrait dans des bus, il y avait des chars de combat qui nous accompagnaient, des voitures d'élite, c'était, voilà, la sécurité était magnifique. À côté de ça, c'était un sketch, l'organisation. Parce que sur le terrain, tu fais confiance à des personnes qui sont, on te dit, bon, tu as mis un bureau LATAM. Le bureau va s'occuper du côté espagnol et de l'Amérique latine et puis du Brésil. Catastrophe. On a dû fermer. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que, quel que soit le président que tu peux placer sur un continent, il ne sera pas sur le terrain en train de travailler concrètement. Ça va être très compliqué d'être sur le terrain, quelle que soit la personne. Ça prend du temps d'y aller minutieusement et de faire les choses concrètement. Il faut brûler le cash, mais il faut rapidement remonter la pente. L'UFC a brûlé 41 millions exactement avant de remonter la pente. Le PFL compte certainement brûler 200-250 millions avant de remonter la pente, mais il faut rapidement remonter la pente. Parce qu'un fonds d'investissement, son but, c'est d'investir et de récupérer ses sous à un moment donné. Donc, il faut quand même leur donner un peu quelques éléments de sécurité pour voir comment ça remonte la pente. Donc aujourd'hui, leur idée, elle est la bonne et la seule possible. Tu ne peux pas développer l'OMMA, une ligue, essayer de monter et être une ligue sérieuse de manière organique. Impossible. C'est mission impossible. Au bout d'un moment, les droits télévision ne sont pas explorés sur l'OMMA. Les droits télévision, il faut les exploser. On te dit toujours, tu as un plafond de verre. Quand tu arrives sur le terrain, on te dit, maintenant, tu rigoles, pour ta ligue, on va te donner 10 000 euros. C'est impossible. Nous, à la télévision, on n'a pas besoin de ça. On a le football, on a le rugby, on a le hockey. Enfin, on n'a pas besoin de toi. Et puis, quelques temps après, la seule chose à faire, c'est qu'il faut que tu tues l'audience. Il faut qu'il y ait un moment donné où le chef d'acquisition à la télévision dit, wow, 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 qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Comment ça, il y a, un gros combat de Francis qui a explosé, et puis il y a tout le monde qui était connecté, il a tué quelqu'un, et puis bon, c'est un délire ce qui s'est passé. Ensuite, il y a Cédric Doumé qui est arrivé, il a fait un bête de combat, et puis il a ruiné le mec, il a dépouillé, connexion maximale et tout, le combat d'après. Et là, les droits télévision passent du simple au quintuple, comme ça, en deux secondes, en fonction de ce que tu donnes. Si tu plafonnes, bah, tu végètes, tu survis. Tu es là entre l'émission de tel et puis le cycle d'à côté, et puis tu es entre pêche et chasse, et tu navigues là, et puis tu survis, et tu ne sais pas exactement où tu vas. Donc, il est capital de faire des grosses OPA, des gros punch. Maintenant, tu pars sur l'organe central. Faut pas aller trop vite. L'organe central, c'est Peter, il a son lieutenant à côté qui est James. Il parcourt le monde pour le développement et l'expansion. En dessous de ça, tu vas avoir des personnes qui sont importantes, mais qui s'occupent essentiellement du sport. Le matchmaking, ces personnes-là qui sont là en interne et tout, qui gèrent concrètement ce qu'elles font sur le sport et ne se prennent pas la tête. Quand tu vas vouloir te faire une expansion, prenons juste la France. Ils arrivent en France le 30 septembre. Il faut du monde. Il faut du monde que tu connais. Tu vois, sur Arès, par exemple, pour l'expansion de l'UFC, on assiste systématiquement à l'UFC, sur Arès, des personnes affectées par l'UFC qui viennent nous aider, qui sont payées par l'UFC, qui arrivent, qui débarquent et qui nous aident pour l'organisation, l'opérationnel sur le terrain. C'est la manière de l'UFC de développer l'OMMA en France et de pousser ce côté. C'est de la prévention, de façon à ce que les athlètes qui combattent sur Arès soient calibrés et éduqués, qu'ils soient facilement marketables, puisqu'on les vend sur la plateforme de l'UFC, UFC Fight Pass, et dans la foulée, quand ils signent à l'UFC, ils sont bankable, ils sont dans les rails, ils sont dans les clous de ce que veut faire l'UFC. Ça prend du temps, ça prend de la qualité pour garder le même style de travail. C'est très long, c'est très compliqué. Mais il n'y a aucun doute, j'ai le même budget que le PFL, je fais quasiment la même chose.
Ok, ok, ok. Et pour toi, parce que là, c'est l'autre chose aussi, moi, qui me pose question avec le PFL, c'est Dana White a parlé de 280 millions de dollars, je pense qu'il est bien renseigné, donc on va être dans ces eaux-là. Aujourd'hui, on sait que les fonds d'investissement, comme tu as dit, c'est un objectif de rentabilité. Mm-hmm. 280 millions de dollars, ça veut dire qu'il vise le milliard, tu vois, avec le PFL, au moins.
Absolument.
Quand on sait que l'UFC, c'est la seule auto-organisation qui vaut un milliard, est-ce que c'est pas aujourd'hui un énorme pari que tout le monde fait sur le PFL et de se dire, on investit peut-être trop grand? Parce que comme tu l'as dit, l'UFC, ils ont perdu 42, c'est pas 280, tu vois.
Bah, la réalité, c'est qu'un fonds d'investissement, la plupart des projets que tu vas présenter au fonds d'investissement échouent parce que les fonds d'investissement ne veulent pas jouer petit. Un fonds d'investissement n'a aucun intérêt à jouer pour 40 millions. la niche du MMA n'intéresse pas les fonds d'investissement en réalité. Un vrai fonds d'investissement arrive, regarde le modèle business et il voit ce que le Bellator fait comme revenu. Ils se disent, mais non, même si tu avais un BP qui est positif et que tu t'en sors, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? En réalité, un fonds d'investissement, il va là. Alors, il joue la sécurité, il ne veut pas que tu brûles le cash n'importe comment, mais en réalité, un fonds d'investissement est viable à partir du moment où il est capable de faire des grosses entrées, des grosses opérations. Sauf qu'on est sur un sport nouveau, un sport où il y a beaucoup de risques. On ne maîtrise pas tout. Tout n'est passé. Mais celui qui ose faire ce que les frères Fertitta ont fait, s'en sort. Aujourd'hui, le fonds d'investissement en question se dit, bon, en réalité, aller sur des petites niches et tout ne me sert à rien. On a tout fait avec le football, on a fait machin, on a acheté telle ligue et tout, telle salle de foot, on gère machin. Bah, ce sont les mêmes sommes à peu près qu'il est en train d'investir, sinon plus sur le foot. Ils mettent plus que ça sur le foot aujourd'hui. Le basket, ils mettent plus que ça. Ils se disent, bon, tant qu'à jouer, jouons gros. À chaque fois que on a eu Benjamin et moi affaire avec des fonds d'investissement, la réponse, elle est toujours simple. C'est encore petit. Imaginons le rêve de votre vie. Si vous aviez 100 millions, vous faites comment pour rentabiliser 100 millions? Bon, c'est pas nécessaire, on a juste besoin de 30 millions. Oh, bon. Nous, ça nous intéresse pas, en fait. C'est beaucoup de boulot, là. Ce que vous nous racontez, il y a beaucoup de tannée, là. Il y a de la tannée. Il y a beaucoup de boulot à faire. Donc, si tu veux, ils sont tombés sur les bons. Ils se sont épousés correctement. Il y a de la congruence. Il y a d'un côté un fonds d'investissement qui ne regarde pas le BP de manière analytique. En mode
business plan en BP.
Voilà, ils ne me disent pas j'ai telle ligne, et donc du coup, le break even arrive à tel moment, et donc rapidement la courbe remonte et tout est calculé, on sait que c'est possible. Quand on voit votre deal télévision aujourd'hui, quand on voit le ticketing que vous faites, quand on voit que sur les 3 derniers événements ou sur les 6 derniers événements, il y a eu une progressivité avec une exponentialité à un moment donné, c'est bon, on y va. Mais non, ce genre de fonds d'investissement qui investit pour le PFS, ce genre de fonds d'investissement, ils ont la possibilité d'extrapoler. Je me suis dit, bon, on imagine qu'on est fou. Comment vous pouvez escale, comment on dit ça, comment vous pouvez étendre, multiplier ce que vous avez fait là? Si je vous donne un peu plus d'argent, prouvez-nous que vous pouvez, et tu vas arriver en disant, je n'ai pas la preuve, je vais juste fait une extrapolation. Si l'UFC, en telle année, avec Spike TV, avait ce montant de contrat, ensuite, quelques années après, ils font ça, ils arrivent à tel montant, je vais, par déduction, me dire que si je prends cet athlète et qu'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de flop, tout se passe bien et qu'il combat bien, il arrive le jour J, Francis, il a une belle opposition, et puis il y a un tel qui arrive le jour J et puis il a une belle opposition, on va décoller les ventes à mort. Et à partir de là, on ne peut pas retenir, puisqu'aujourd'hui, le PFL est diffusé sur ESPN, la même télévision qui diffuse l'UFC. Il y a juste que le PFL prend un petit montant et l'UFC prend un maxi montant. Si tu es capable de donner une garantie de dire, OK, l'UFC a 42 événements à l'année, nous, on n'avait que 12 événements, bah, l'année prochaine, on t'en met 24. On t'en met 24 de qualité. Bah, ça change. Et il faut juste que le rêve croise la réalité sur la vision du fonds d'investissement. Il y a des fonds d'investissement qui voient petit et qui se disent, nous on cale, le BP doit matcher. La ligne et tout, s'il y a telle ligne, il faut qu'à un moment donné, ça sorte de l'argent. Si ça ne sort pas, ce n'est pas viable, on ne prend pas le risque, on n'y va pas. Et puis, il y a certains qui disent, nous, on veut jouer gros. On a tout l'histoire du MMA. On a lu un peu comment ça monte. On a vu comment ça se travaille. On se dit qu'aujourd'hui, avec les séries qui passent sur Netflix, sur le MMA, avec l'appétence de ce qui se passe, avec l'étude de marché qui prouve qu'en France, par exemple, on a 250 000 personnes qui attendaient pour acheter des tickets pour aller regarder un truc de MMA. Avec ce qui se passe quand on teste la machine à pay-per-view et qu'on se rend compte que les Africains, malgré leur pauvre pouvoir d'achat, soi-disant, sont des gros consommateurs de pay-per-view, on s'est dit, bon, il y a un marché quelque part, il est rentable. Bon, vous savez quoi? Nous, on va tenter notre chance. On va sécuriser et puis voilà. C'est la seule manière de pouvoir rattraper le temps perdu parce que construire une marque, quand tu vends des t-shirts, c'est énorme. Ça prend du temps. Tu as ta marque, tu l'as vécu, tu as la sueur, tu fais des t-shirts de la sueur. Tu reçois plein de textos qui te disent on a besoin de t-shirts, on a besoin de t-shirts. Mais tu te dis bon, ça y est, j'ai percé. Tu fais 5000 t-shirts et puis finalement il y a 700 t-shirts qui sont vendus. Il t'en reste 4000 et tu sais pas quoi en faire en fait. Tu te dis bon, c'est bizarre. J'avais beaucoup de demandes. Non, ce sont des démarches. Des demandes des amis, des proches, des machins, mais en réalité, en termes de masse, si tu ne t'appelles pas Jordan, tu ne vas pas surprendre les gens, tu ne vas pas vendre des t-shirts, il va t'en rester sous la main. Parce que c'est le même principe avec une organisation comme de MMA. C'est que, oui, tu as trois lettres aujourd'hui qui sont confondues avec le MMA. UFC, c'est confondu avec MMA, tellement ils ont bossé, ils ont vendu l'image de ces trois lettres. Nous, on passe le temps à vendre l'image de nos quatre lettres. Arès, et ça prend du temps. Si tu veux aller de manière organique, ça prend beaucoup de temps, il faut beaucoup de patience. Il a fallu 2 décennies à l'UFC. Si tu n'accélères pas le processus, aujourd'hui avec la com et tout, ça peut prendre 15 ans. Mais si tu fais ce que fait le PFL, il est possible que dans 5 ans, ils aient renversé la vapeur.
Tu penses que Francis peut être cet athlète-là ? Qui permettra au PFL d'inverser la vapeur ou pas ?
Dans le meilleur des mondes, si tout se passe bien. Maintenant, on sait c'est quoi la compétition. La compétition, ça fait ça. C'est Francis arrive demain. Jusque-là, tout est parfait. Il arrive demain. Il fait le beau combat avec un bel adversaire. On lui trouve un bel adversaire. Il fait une belle opposition. Imaginons, même Ante Deliha arrive, il est en forme. Gros combat, guerre des étoiles. Au final, Francis gagne. Le monde est retourné. On découvre Ante Deliha. Quand Ante Deliha va recombattre à côté contre quelqu'un d'autre pendant que Francis va affronter Verdôme, il refait un gros combat. Il est encore à son prime. Sans penser au combat de boxe qui arrive et tout, sans penser aux millions. Il reste en forme pour le MMA. Pendant ce temps, il y a la locomotive qui tire derrière. Ben, c'est bon. On y est. Il faut juste ça. Il faut juste que la mayonnaise prenne. Tu sais que l'histoire du MMA se joue sur deux personnes, deux athlètes. Tu sais c'est qui?
Forrest Griffin.
Et Stéphane Bonnard.
Exactement.
Stéphane Bonnard, Forrest Griffin. Il commence un combat. Dana White se dit on est mort. C'était notre dernière cartouche, c'est notre dernier event. On n'a plus un sou, on ne peut plus mettre, on est mort. On vient de déposer 40 millions, on n'a plus de sous, on est dépouillé. Il se dit, ça va aller à la décision, ça va être combat pourri, le public va être dégoûté, on est mort. Et le combat s'enflamme, il y a un peu de tout, ça saigne, c'est excitant. Et le nouveau boss de Spike TV dit, je vous prends, je vous signe. Et la boîte survit comme ça. Ça se joue à ça, le détail. Ça se joue juste à un athlète qui arrive, qui fait une performance incroyable et qui va choquer le monde. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe, une magie qui se passe à la télé. Des personnes qui n'étaient pas des personnes abonnées à ça vont croire. Et c'est ça que ça se joue. Canal Plus a 12 millions d'abonnés qui ne connaissent pas le MMA. Tu arrives, tu sens un gros combat. Je sais pas moi, je dis n'importe quoi, Baisango contre, je sais pas moi, un autre nom. Voilà. Et tu mets le gros nom, boum. T'as le combat du siècle, ben, c'est fini. Parce que à ce moment-là, il y avait une connexion qui s'est passée à un moment donné où il y avait pas mal d'abonnés en ligne Et puis, ça devient des gens qui sont convaincus. Le lendemain, audience s'envole, et puis ça a changé tout. Et quand Maxime Saada voit ce genre de truc, bah, il te rappelle et il dit, bon, on va discuter, c'est très intéressant ce que j'ai vu là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rajouter des émissions, on peut rajouter une machin, et ça devient exponentiel. C'est ce qu'ils sont en train de faire, le PFL. Et c'est très bien, c'est malin ce qu'ils font. Maintenant, il faut qu'au-delà de ce qui est fait en surface comme présentation et comme annonce, qu'à l'intérieur, sur le terrain, qu'il y ait du vrai boulot sur le terrain. Parce qu'il y a des territoires qui vont être compliqués. Le Middle East, le Moyen-Orient, ça va être chaud. Parce que sur le terrain, des personnes compétentes sur le terrain, c'est compliqué. Et dès que tu te mets à exporter, ramener des gens de Vegas pour aller bosser toutes les semaines à Abu Dhabi, à Dubaï ou en Arabie Saoudite, ça devient hyper cher. Donc, tu es obligé de pouvoir faire des bureaux sur place. Dès que tu veux déplacer, ça devient. Donc, voilà. Quand tu vas aller en Asie, quand tu vas aller en Afrique, quand tu vas aller. C'est pas un hasard si l'UFC n'est pas bien implanté en Europe, n'est pas bien implanté en Asie, n'est pas bien implanté. Et pourtant, ce sont des boss, quoi. Ils sont beaux, ils sont juste à la frontière avec le Mexique. Mais combien d'UFC par an tu vois au Mexique? Pas tant que ça. Tu sais, il y a des gens qui nous regardent à Arès et qui disent, pourquoi vous ne venez pas en province? Pourquoi vous ne venez pas en Suisse? Pourquoi vous ne venez pas en Belgique? Dites-vous bien que l'UFC, c'est 1 million de fois à Arès et qu'ils vont une fois, et il y a des années, ils ne vont même pas au Mexique. Le Mexique, où il y a quasiment, je crois, deux champions en ce moment, il y a combien?
Trois champions. Il y
Trois champions.
a Yair Rodriguez,
Voilà.
là, ton pas bref.
Un intérimaire et deux champions.
Brandon Moreno et celle qui a battu Shevchenko. Voilà.
Voilà. C'est pour vous dire, l'ordre d'idée, en fait, c'est que l'événementiel, tu ne te jettes pas comme ça à vouloir juste voyager et faire des déplacements comme un fou. C'est archi compliqué. Rappelez-vous la dernière fois où l'UFC est allé en Pologne. C'est quand l'UFC est allé en Pologne la dernière fois. On ne se souvient même plus. Et pourtant, regardez le marché polonais, comment il est riche, il est éduqué. Ces mecs-là font 50 000 personnes au KSW. Mais regardez que l'UFC n'y va pas n'importe comment. Parce que quand ils font le calcul, crois-moi, si ça gagnait, ils y seraient en pole position. Mais c'est ça qu'il faut regarder, c'est que dans cette course à construire la marque en brûlant du cash, faut avoir la bonne mesure pour ne pas trop en brûler n'importe comment. Faut aller dans ces. Quand je disais que je ferais la même chose que le PFL, je ralentirais l'expansion mondiale parce qu'elle coûte cher et elle est extrêmement dangereuse. Et je me concentrerai sur les États-Unis pour battre l'UFC d'abord aux États-Unis. Extrêmement solide aux États-Unis. Les battre. Je développerai le marché de l'Afrique en important des combattants africains. On n'a pas eu. Rugrug, par exemple, il est allé combattre en Asie. Mal géré, on n'entend plus parler. Mais ce mec, on a fait une vidéo avec lui, il a combattu contre Sofiane Boukrishou, ça fait, je crois, ils sont à 3 millions de vues. Ce genre d'athlète en Afrique, il y en a des centaines. Avoir des drapeaux africains qui flottent sur le PFL n'a pas besoin immédiatement d'aller sur place. C'est très bon à long terme d'y aller, mais je ne suis pas sûr que ce soit pertinent. Quand on voit le marché asiatique, la Chine, est-ce que tu imagines ce que l'UFC ferait comme argent si 10% des Chinois payaient le pay-per-view? C'est que c'est fini. Enfin, ce n'est plus une licorne, ça devient autre chose, tu vois. Voilà. Mais le marché est très difficile. Bien qu'ils aient une championne chinoise à un moment donné, Le MMA n'a pas pour autant explosé en Chine. Parce qu'il y a les réalités sur le terrain où ils vont préférer le sanda, ils vont préférer le kung-fu. Et il faut aller avec ça. Il faut suivre les marches des autres, essayer d'améliorer les marches, mais ne pas faire les fous de s'enflammer trop.
Et concernant Francis, on avait parlé des interviews avec Kyle Helwani, de ce qui se passait depuis son départ de l'UFC. Finalement, il obtient un deal, je vais pas dire inespéré, mais je trouve ça assez fou qu'on ait eu l'impression, enfin je sais pas, parce que bah, toi t'es plus en lien avec Francis, mais dans le sens, comment est-ce qu'on peut obtenir un tel deal en ayant eu, nous, l'impression, via les médias, que ce soit Chatri du ONE FC, que ce soit du BKFC qui fasse sortir, on avait l'impression que ces options s'amenuisaient au fil des semaines, et finalement il obtient un truc complètement fou. Est-ce que tu penses que toi, c'était déjà fait depuis longtemps avec le PFL, finalement?
Non, je ne sais pas. Je préfère ne pas parler de ce dont je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Non, je ne sais pas.
Il savait. Non, ok.
Mais non, c'est pas. Non, je ne savais pas. Je suis pas dans les dieux de. Non, je effectivement, les dirigeants du PFL sont des amis, on discute, mais ils vont pas me parler de tous les deals, quoi. Enfin, je n'en sais rien. Les deals ont une notion de confidentialité. J'espère bien que ce que je dis avec eux reste confidentiel et ce qu'ils disent avec d'autres acteurs, ça reste confidentiel. Je pense juste que la vérité existe quelque part au milieu. Je pense qu'il faut pas confondre les interviews qui se font. Chacun tire. Quand tu as compris le modèle qui se passe sur la communication, c'est que chacun tire sa, la, chacun prend de la com ce qu'il veut. Les personnes comme Chakri, qui sont déçues de ne pas avoir Francis, vont donner une version, une narration qui n'est pas complètement différente. Hein, la vérité, elle est quelque part au milieu, puisque quand il dit que Francis a demandé une chaise dans le board, bon, de l'autre côté, il a une chaise dans le board. Donc, ce n'est pas très déconnant, ce n'est pas stupide. Comme, il n'a pas inventé ça, c'est quelque chose qui est possible. Et voilà, c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible. Peut-être un malentendu, peut-être que Francis lui a dit, écoute, moi, de l'autre côté, j'ai une chaise dans le board, vous me proposez quoi? Il a dit, bah, le gars, il est fou, il m'a demandé une chaise dans le board, alors que c'est parce qu'on lui a demandé. Je n'en sais rien. Je préfère dire, je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas, chacun tire un peu la communication, comment elle peut lui être favorable. Tout le monde, quand tu as Arena Wani qui parle avec un combattant de l'UFC, qui que ce soit, j'ai fait 3 interviews chez Arena Wani, en général, il t'amène sur un axe pour régler ses problèmes avec son plus grand ennemi qui est Dana White. Donc, tu vois bien que chacun a son intérêt. Lui, il est intéressé à encenser quelqu'un qui est contre et puis ainsi de suite. Tu vois que Dana White, dans sa communication, il ne va jamais sur les podcasts des combattants de l'UFC, mais il va aller sur le podcast de comme Paddy Pimblett. Parce que Paddy Pimblett va dire quelque chose de pas bien sur Ariel Helwani. Donc, la com, c'est un peu, faut prendre ça avec des pincettes. Faut prendre ça tranquillement avec des pincettes parce que chacun fait ses arrangements comme il veut et c'est normal, il n'y a pas de souci. C'est le jeu. Donc, du coup, je trouve ça normal et chacun a joué son game comme il voulait. Il n'y a rien qui, moi, me surprend dans les deals qu'ils ont eu ou pas.
En termes de montant, moi je trouve pas ça déconnant pour Francis. Est-ce que toi, quand t'as vu les conditions de l'accord entre Francis et le PFL, est-ce que tu te dis là aujourd'hui, je pourrais proposer ça à une superstar?
Mais jamais de la vie, j'ai pas les moyens de le faire. Mais jamais de la vie.
Mais fin... parce que en vrai, bah, du coup, est-ce que, bah, je vais poser ça différemment, est-ce que un deal avec Francis, même pour le PFL, c'est rentable financièrement immédiatement ou ça reste?
On le saura bientôt. Faut patienter. Pourquoi tu veux qu'on aille comment on appelle ça?
Non, parce que en fait, ce que je me dis, c'est qu'il y a certains deals, tu vois, où on sait. Enfin, par exemple, tu vois, Cristiano Ronaldo qui est en Arabie Saoudite aujourd'hui, on sait que c'est pour l'image de l'Arabie Saoudite et que directement, il est payé 200 millions par an, qui ne rapportent pas directement 200 millions par an. C'est juste qu'ils espèrent un ruissellement en termes de tourisme, en termes de... Mm-hmm. Et que Francis, au regard des montants, du fait que tu vois, l'adversaire va être payé 2 millions, Francis, apparemment, on serait... Donc c'est une somme à 7 chiffres, donc c'est moins de 10 millions, mais on se rapproche des 10 millions, plus il est intéressé sur tout ce qu'il y a autour du combat. Je me dis, on regarde, quand on voit les chiffres aujourd'hui des plus gros combats de MMA, qu'on peut, que le PFL peut être positif, en positif, sur l'événement de Francis Ngannou. Et que y a pas, c'est pas juste un espoir de leur part de se dire, bah on va peut-être recruter d'autres gars. Mais sauf que comme t'as un sourire, je pense que t'as des infos qui font que...
Mais non, c'est magnifique, c'est bien. T'as déjà tiré la conclusion, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse à que...
Non mais tu sais des choses, là tu sais des choses, dans le sens où soit t'as proposé un truc comme ça à une superstar ou non, je sais pas.
Il m'est arrivé de proposer des montants de fou déjà, mais où tu sais que c'est, comme on dit encore, on brûle du cash. Il m'est arrivé de proposer à Melvin Maneuf 100 000. On était quasiment sur la signature. Et ensuite, le Pelator a proposé à surenchérir derrière. Voilà, mais avec le recul, tu me ramènes dessus avec ce qu'aujourd'hui, aucune chance, aucun intérêt. C'est que je ne suis pas sûr que Melvin Maneuf puisse vendre plus de places en France, à Paris, que Abdul Abdulagimov.
C'est
voilà,
clair.
Tu vois ce que ouais. Je ne suis pas. Voilà. Il y a des petits jeunes aujourd'hui. Les gens se posent des fois la question pourquoi un tel va faire la ceinture, mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui il y a pas beaucoup les noms en général qui traînent que vous voyez devant la scène, que ce soit Damien, Amin Ayoub, Mustapha Aïda, Abou Younousov, ils ont beau être jeunes comme vous les voyez, mais ce sont des bons vendeurs de places. Et des fois, tu vas prendre une grande star, elle a beau être intéressante pour la télévision et les droits télévisés, parce qu'on la connaît un peu partout dans le monde, mais sur le terrain, elle ne t'apporte pas des gens parce que les gens ne les connaissent pas. Le monde a beaucoup évolué. Il y a peu de gens aujourd'hui de la génération des athlètes français que je viens de te citer qui connaissent Melvin Maneuf. Et pourtant, c'est une immense star. Je fais confiance au PFL. Je fais confiance à leur calcul. Et le titre, il est annoncé, brûler du cash. C'est vraiment l'expression qu'on utilise quand on est une start-up et qu'on veut devenir une licorne et qu'on a trouvé un moyen d'accélérer. On appelle ça brûler du cash. Le mot, il est dit, il est gentil, il est clair. C'est qu'à un moment donné, il y a des investisseurs qui arrivent et qui t'annoncent, bah, c'est fait pour ça. Le cash, il est fait pour être brûlé. Là, il faut le brûler parce qu'il faut qu'on vous connaisse, il faut que vous ayez une signature, il faut que vous fassiez quelque chose de bien. Donc, rentable ou pas rentable, je pense qu'ils vont s'y retrouver. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont s'y retrouver. La signature n'est pas un problème. Les montants qu'on annonce sur la signature ne sont pas ahurissants. C'est correct. Ce qui me fait peur, c'est plus l'expansion. Il mérite ce qui lui arrive, Francis. Il mérite les sous qu'il a. Ce qui me fait peur, moi, c'est juste l'expansion de tous les côtés de manière accélérée. C'est complexe des fois. Moi, je, à ma petite dimension, je ne ramène pas tout à moi. C'est pour donner des exemples, pour illustrer ce qui se passe, pour que les gens comprennent. Voilà. L'expansion du MMA Factory, par exemple, avec plusieurs salles à Lyon, avec le partenariat de On Air, à Montpellier, à machin, on a dû ralentir. Montrer une nation, on a dû ralentir. Parce que des fois, dans l'expansion, quand tu vas plus vite que le nombre de personnels qualifiés, tu peux gaspiller l'image et réduire la bonne qualité et arriver à un truc où tu n'as plus la bonne pédagogie et tu es obligé de ralentir et te dire « Ok, je vais attendre, je vais encore former d'autres personnes, d'où notre école de formation, FMC, Fight Management College, pour aller reformer encore d'autres personnes pour qu'on soit sûr qu'on ait un bon bassin de coach. Et à partir de ce moment-là, on va revenir à l'expansion, au développement pour pouvoir multiplier ça. Mais ça ne change pas qu'on continue à faire de l'expansion, mais de manière stratégique. On a des partenaires en Algérie, on a des partenaires à l'île de la Réunion, on a des partenaires. On trouve des partenaires dans les coins du monde qui nous disent, nous, on veut un MMA Factory ici, mais on est prêt à jouer avec vous. On va travailler ça sous une forme de partenariat où il y a une franchise où vous nous donnez les conseils, vous nous donnez les codes, vous nous donnez le cahier des charges. Nous, on applique, on est ici, on investit et du coup, on va trouver un moyen de vous retrocéder et de vous payer. Voilà, on s'arrange comme ça de façon à ce qu'on ne soit pas grillé. On donne une certaine garantie parce qu'on demande aux gars sur le cahier des charges d'embaucher des personnes qui ont tel niveau d'enseignement, tel niveau de diplôme. Ces personnes seront parrainées par nous parce qu'il y a l'un de nous, des head coach du MMA Factory, qui va se déplacer pour aller continuer. Alors, il faut faire attention à l'expansion sur les territoires inconnus. C'est tout ce que je dis. Mais sur les contrats eux-mêmes des combattants, c'est correct.
Et le rachat, donc c'est ce que Dana White a dit, que le PFL souhaitait racheter le Bellator. Est-ce que pour toi ça, c'est pour moi c'est un truc différent, mais est-ce un bon move aussi de la part du PFL dans cette opération de brûler du cash?
Oui, ça a un sens pour moi, parce que comme je te disais...
Parce que pour le coup, ils sont sur le même territoire.
C'est ça. Quand tu vas acheter, la première des choses, c'est qu'il faut phagocyter tout ce qui est autour de toi. D'abord, il faudrait qu'il n'y ait plus d'ombre. Il y a une part de marché qui est prise par le Bellator. Si tu effaces le Bellator, on ne te parle plus que de deux ligues américaines. PFL, UFC, ça devient facile à les combattre. Ça veut dire que tous les week-ends, tu sais ce qu'ils vont faire. Tu mets un événement à côté qui est en compétition avec ça, qui est dur. C'est ce que l'UFC va faire. L'UFC n'annonce pas encore le combat de Conor, n'annonce pas encore le combat des grands noms qui sont les grands vendeurs de pay-per-view parce qu'ils sont là en réserve. Dès qu'on va annoncer le combat de Francis en 2024, ils vont sortir des armes non conventionnelles. Ils vont faire une fight card le même week-end où il y aura tous les plus gros vendeurs de façon à ce que le combat de Francis devienne inintéressant parce que c'est la guerre de l'influence des réseaux. C'est comme ça que ça va jouer. Et donc, du coup, c'est plus facile quand ça se passe entre un leader et un leader. Le Bellator vient brouiller un peu la communication. Ça gêne un peu, ça réduit un peu l'impact. Donc, s'ils prennent le Bellator au passage, échec et mat. Sur l'Europe, c'est ce qu'il faut faire. Quand tu arrives en Europe, il faut pouvoir te développer progressivement, racheter, quoi. C'est ça l'idée. L'idée aujourd'hui, c'est de dire que demain, on propose un montant au cage warrior et qu'on les phagocyte et que ça disparaisse et qu'à ce moment-là, on dit, bon, en Europe, bon, il y avait le cage warrior à l'époque qui avait ces montants-là, qui faisait ce genre de shows, nous, on les a doublés, on fait plus de shows qu'eux, on paye mieux les athlètes, on organise mieux. Et puis finalement, on a les moyens, on les a phagocytés, ils disparaissent. Et puis, du coup, sur le même broadcaster qu'on a, qui est UFC Fight Pass, qui est notre broadcaster principal, on va tuer la concurrence dessus et dire, bon, concentrez votre énergie sur nous. Dorénavant, sur la communication du compte UFC Fight Pass, on veut que les highlights des KO qui passent, ce soit les highlights de Ares, parce qu'on a tué la concurrence. Eux, de leur côté, Cage Warrior, c'est ce qu'ils veulent faire. Leur organisation et leur manière de conserver Morgan Charrier, de conserver les combattants comme Mehdi Ben Lagda et tout ça, c'est de dire il faut qu'on garde des pions français. Parce que quand on va arriver sur le territoire français, ils vont nous aider à pouvoir dominer et puis peut-être battre un Juarez.
Ok. Mais donc là, il y a des discussions avec le Cage Warriors ou tout ce que tu dis n'est que...
Ce n'est que
supposition. Voilà,
ce n'est que dans un monde de rêve.
D'accord. Et pour finir, est-ce que Fernand, quand tu as dit donc en introduction de cet épisode, le PFL sont les plus sérieux concurrents de l'UFC, est-ce que c'est possible qu'on ait un monde où le PFL dépasse l'UFC? Parce qu'aujourd'hui, je me dis, culturellement, l'UFC est tellement ancré dans les mœurs. Tu l'as même dit, les gens peuvent confondre UFC et MMA. Est-ce que c'est possible, ça, ou...
Complètement. C'est complètement possible.
Okay.
La question est combien de temps le PFL peut continuer à brûler du cash jusqu'à ce que la vapeur se renverse. C'est simple. La clé, c'est l'entertainment. Est-ce que tu es capable, tous les week-ends, quand tu vends quelque chose, tous les vendredis soirs, quand Arès essaye de vendre un événement au Dôme de Paris, il y a des concerts à l'Accor Arena, il y a des concerts partout en France, il y a des cirques, il y a des foires, il y a des boîtes de nuit, il y a le cinéma, il y a des sorties des grands films. C'est terrible la concurrence. Il y a des matchs de foot à la télé gratuitement. Il y a des bouquets de tout. Il y a Netflix, il y a Flex, il y a Amazon. C'est la guerre mondiale de l'entertainment. Si tu es capable, dans ton domaine à toi, du MMA, de proposer, parce que Cédric et Francis ne vont pas suffire. Il va falloir continuer à les utiliser comme des aspirateurs qui vont faire que d'autres personnes aient envie de venir. Le fait d'avoir utilisé Gogan Saki à l'UFC, le fait d'avoir utilisé Israël Adesanya à l'UFC a fait un appel d'air pour des strikers. Le fait d'avoir utilisé certains lutteurs a fait un appel d'air pour les lutteurs. Le fait d'avoir utilisé Caro Parisienne à l'époque, on a vu des grands judokas du Japon venir là-bas. Et l'idée, en fait, c'est qu'à un moment donné, que tu puisses renverser la vapeur et que tu puisses apporter un certain nombre d'athlètes qui, sur l'entertainment, deviennent plus intéressants. Parce que l'argent que tu as a la possibilité de matcher contre eux. C'est aussi simple que ça. C'est qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que si j'ai l'argent pour payer Cyril Gane, Cyril Gane combat Arès au calme. Mais il n'y a aucune chance. Je peux pas me l'offrir. Si j'ai le budget de payer Nassourdine Imavov, l'augmentation qu'on lui a fait récemment avec un ajout de combat sur son contrat, je dis non. Nassourdine Imavov reste disponible. Je lui donne le double de ce qu'on lui donne à l'UFC. Il sort de l'UFC calmement parce qu'il va combattre à Paname. Il aura les yeux. Et donc, petit à petit, tu construis quelque chose. C'est tout ce que lui a fait, le PFL est en train de faire. Rappelle-toi qu'il y a quelques années encore, on parlait beaucoup du Pride. Le Pride avait des combats incroyables. Le Pride faisait des entrées où il y avait quasiment 90 000 spectateurs. La télévision, nous tous, on se passait c'était à l'époque des CD et tout, on se passait des CD gravés du Pride. Et puis, on a oublié, c'est fini. Parce que l'UFC a fait une OPA. Ils se sont dit, bon, mondialement parlant, il y a deux grosses organisations, il faut qu'on élimine eux. On les élimine, fin du game. Ensuite, sur les États-Unis, on va ramasser tout ce qui existe. On va prendre le WEC, on va prendre le Strike Force, on va prendre. Et puis, ils ont tout pris. Et puis, finalement, il y a un seul nom qui existe, qui reste dans la mémoire de tout le monde, c'est UFC. Bah, c'est sur cette voie qu'est le PFL aujourd'hui.
Et leur objectif est pas aussi, c'est ce que je, enfin, après, ils ont une stratégie complètement différente. On l'a vu avec le partage de revenus, tout ce qui se passe avec Francis, mais est-ce que l'objectif du PFL, en tout cas, vu qu'aujourd'hui c'est un fonds d'investissement qui s'occupe de tout ça, d'aussi se dire, on va être racheté par l'UFC, ou tu penses qu'aujourd'hui, il y a une telle différence de...
Non. Okay. Non. Ils n'ont pas, non. C'est pas pour le moment. Ils pourraient être contraints d'être achetés par l'UFC, comme aujourd'hui le Bellator est contraint d'être acheté par quelqu'un d'autre, par le PFL, parce que ils seront à court d'investisseurs, à court d'argent pour pouvoir continuer à inverser la tendance et avoir le break-even. Mais là, ils n'ont pas de problème. Ce qu'ils ont eu là comme argent, ils ont la possibilité d'aller tranquillement jusqu'à arriver à ce qui est nécessaire. Ils ont pendant que l'UFC a UFC Fight Pass, ils ont DAZN. Pendant que l'UFC a ESPN, ils ont ESPN. Pendant que l'UFC se bat pour aller chercher des droits médias un peu partout dans le monde, ils ont versé tout le monde entier en termes de droits médias. Ils ont arrosé le monde, le PFL. Malheureusement, ils n'ont pas encore de l'entertainment. Jusqu'aujourd'hui, les droits de télévision qu'ils ont, ça n'a pas encore la même valeur que l'UFC. L'UFC n'a pas autant de droits médias dans tous les petits pays que le PFL est en train de nettoyer partout. Quand l'entertainment va vraiment devenir sérieux et qu'on aura les yeux braqués dessus parce qu'il y a des gens importants qui combattent, il y a moyen. Mais le problème, c'est que les gens qui combattent coûtent cher. Attention, la tendance va changer. Pour le moment, ils coûtent cher parce qu'ils sont les premiers venus. Dans quelques mois, quelques années, le PFL va... C'est toujours le problème de l'offre et la demande. Le PFL va être compliqué à... Ils vont plus payer comme ils payent aujourd'hui. Moi, je viens de signer deux gars au PFL, ils sont bien payés.
Mais on ne peut pas avoir les noms. On peut pas avoir les noms.
Non.
D'accord. Bon, bah, très bien.
mais la tendance va s'inverser brutalement à un moment donné quand il y aura trop de demandes de personnes qui veulent aller au PFL. Il faut juste que ça arrive le plus tard possible et surtout que ça arrive quand le PFL a trouvé une solution pour commencer à faire du pay-per-view, mieux vendre dans les salles et surtout avoir des droits de télévision conséquents.
Bah parfait, je pense qu'on a fait le tour sur PFL, nouveau concurrent de l'UFC. N'hésitez pas à sauvegarder ce podcast parce que peut-être que d'ici quelques années, Mystique Fernand aura encore frappé avec le PFL qui sera devenu le véritable concurrent de l'UFC ou même qui aura dépassé l'UFC. Petit point, bref, mais toujours important. Sur RS Fighting Championship, Fernand qui fait son retour le 23 juin prochain. Les débuts de Monsieur Sola dans l'organisation, ça faisait longtemps que tu souhaitais le signer. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que t'es arrivé finalement à la conclusion de tout ça? Parce que on a la première fois, je crois que c'était sur un combat... Sola contre Baiki, c'est ça, qui avait eu les premières rumeurs.
C'était ça. Non, c'était super facile, finalement, avec la collaboration de M. André Cassata. Monsieur qui est l'entraîneur de
Manon.
Oui, de Manon aussi, entre autres, mais l'entraîneur de Axel Sola et qui est son manager. Mmh. Ce monsieur est juste compétent. Dans ce qu'il fait, il est un bon manager, un bon entraîneur, et puis il va très vite sur des décisions. Donc, la question était juste, est-ce que Sola optimise son poids à 77 kilos ou est-ce qu'il descend de catégorie? Et il était un peu entre les deux, il faisait facilement 77 avec l'accompagnement de l'un des plus grands diététiciens en France, Clément Marcoux. On est arrivé rapidement à la conclusion que il était un bon 70 et donc directement j'ai eu un appel de monsieur Aldo Cassata qui m'a dit c'est bon, on y est, ça va être 70. Donc Baki ne pouvant pas descendre à 70, on a trouvé un autre jeune talent, un jeune brillant plutôt, pour faire le combat et donc voilà.
Ok, très bien. Bah, réponse d'ici quelques semaines. Et juste, vous inquiétez pas, on va parler semaine après semaine des combats. Il y en a un qui m'intrigue un peu. C'est le Freddy Kemeo contre Alpha Sissoko.
Oui, c'est chaud ça.
Ouais.
Ça sent la violence.
Exactement.
Ça sent la violence. Alpha, il est en mode retraite de moine, quoi. C'est hallucinant. Tu n'entends pas parler parce qu'il a été pas content de sa dernière performance. Il est isolé avec ses frères pour développer vraiment. Ils s'investissent tous pour qu'Alpha puisse faire une bête de sortie. Il s'entraîne au sol comme jamais. Il fait beaucoup de luttes. Il bouffe de la lutte. Et donc.
Après, là, on ne devrait pas avoir beaucoup de luttes, je pense.
Sait-on jamais. Sait-on jamais, tu vois. Maintenant, effectivement. Je pense qu'il y a des jambes qui vont voler de la part de Freddy Kemayo. Il va essayer de le coucher de la même manière qu'il a couché Xavier Le Sou. Et du côté de Alpha va faire voler ses points. Et puis moi, je m'attends vraiment à un gros combat sans. Ils vont pas donner de quartier, quoi. Ça va être chaud. il y a beaucoup de jeunesse de la part de Alpha Sissoko, mais il y a beaucoup d'expérience de la part de Freddy Kemayo qui, quand c'est des gros combats comme ça, où il y a des grosses guerres comme ça, trouve souvent des solutions, même s'il a été stoppé par Michael Drew. Ouais, c'est un combat qui m'intrigue moi aussi, c'est un gros combat.
Et ben voilà, réponse d'ici quelques semaines à Ice Fighting Championship volume 16. Looking, merci beaucoup, à la semaine prochaine.
I'm fucking coming for you!